Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Les écolonautes vous entraînent dans une balade nature, à quelques kilomètres de l'océan en Vendée. Nichée dans le Marais breton, de Beauvoir-sur-Mer à Challans en passant par Notre-Dame-de-Mont, se trouvent 45 000 hectares de zone humide. À perte de vue, le Marais façonne le paysage et frôle la côte atlantique. À cheval sur la Loire-Atlantique et la Vendée, coincée entre le Pays de Ré et le bocage vendéen. Dans cette portion de zone humide, la faune composée notamment d'oiseaux s'y régale. La vaucette élégante, les chasses blanches, le canard souché. La bécassine des marais profite de ce coin de nature exceptionnel. Portrait de Lucie Mariteau, éleveuse installée depuis quelques mois. Véritable passionnée de la nature et de ses animaux, elle a choisi de s'y installer avec sa famille et une quarantaine de vaches maraîchines. Cornes en lyre dressées, la maraîchine est l'emblème de ce marais. La démarche de Lucie est de faire corps avec la nature, de profiter de ses bienfaits, de l'aider sans la bouleverser, de travailler avec les animaux en respectant l'habitat naturel dans lequel ils évoluent. Humer les vertes prairies humides, scruter l'horizon, le soleil couchant, travailler sans relâche pour faire éclore un projet de longue date, s'émouvoir de la beauté du monde et de la nature en travaillant main dans la main avec elle. C'est ce que l'on peut ressentir quand Lucie nous parle de son travail. Loin d'être un sacerdoce, vous allez le découvrir, elle est une éleveuse heureuse dans sa ferme, la Vaucette Rieuse. Les écolonautes, épisode 4.
Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ?
Oui, alors moi je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. J'ai fait des études dans le droit de l'environnement. Je suis issue d'une famille, enfin comme je pense 90% des Français, j'ai mes grands-parents qui étaient agriculteurs. Mais mes parents pas du tout. Du coup, j'ai fait des études dans le droit de l'environnement. Après, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la réduction des déchets. Donc c'était intéressant parce que pour moi, c'était de la préservation de ressources que la réduction des déchets. Dans mon fauteuil, derrière mon écran d'ordinateur, il y a quelque chose qui me satisfaisait moyennement. J'avais un petit rêve, c'était de partir en camion vadrouiller à droite à gauche, découvrir un peu la France et puis autres, quoi. J'ai fini par réussir à le faire avec mon conjoint. On a décidé de quitter nos univers qui ne correspondaient pas trop. Et puis on est parti pendant 8-9 mois faire du woofing en France et en Espagne. Du coup, ça nous a permis de rencontrer des paysans, d'aller chez eux. Le principe du woofing, c'est de travailler 5 heures, enfin, travailler, collaborer 5 heures. Et puis en échange, on est nourri et logé. On a pu être vraiment au cœur on a vécu vraiment l'intimité des gens qui vivaient leur projet. Enfin, c'était vraiment magique comme moment. Super chouette. On est revenu, on est arrivé par hasard dans le Marais breton parce que fallait renflouer un peu les caisses. On a fait une saison. Au début, on disait le Marais breton, c'est sympa, mais on y va pour la saison, puis après, on s'en va, quoi. Et puis, en fait, ça fait 3 ans, je pense qu'on n'est pas prêt de partir, quoi. Parce que finalement, moi, j'ai pas du tout réussi à retourner dans mon ancien monde. Je le savais un peu en partant, mais ça s'est vraiment confirmé. J'ai un peu cherché. Je me disais que l'agriculture, ça m'intéressait beaucoup. Parce que moi, ce que je voulais, c'était protéger la nature. C'est vraiment la protection de l'environnement qui me pousse à aller vers le monde agricole. Chercher un système qui me permettait de protéger la nature et puis de vivre quand même. Parce que ça compte aussi. J'ai rencontré des gens, des éleveurs. Enfin, je voulais surtout rencontrer des éleveuses parce que je me sentais plus à l'aise de parler avec des femmes sur certaines choses. Puis comme c'est un monde très masculin, entre femmes, c'est pas pareil, quoi. Puis moi, je voulais des éleveuses, je voulais pas quelqu'un qui faisait les papiers ou la compta. Enfin, ça m'intéressait pas trop. Je voulais confronter la partie physique de l'activité, la partie aussi un peu sentimentale, parce qu'on s'attache, affectif, on s'attache aux animaux. Les envoyer à l'abattoir, c'est pas toujours facile. Donc j'ai rencontré deux éleveurs qui sont juste à côté de là où je suis maintenant, à Notre-Dame-de-Mont, et qui vraiment, c'est pareil, c'est des gens qui sont pas du tout issus du milieu agricole, et puis eux, ils ont leur objectif, c'était de protéger la nature, donc quand je suis arrivée chez eux, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
C'est incroyable, passer d'une vie de bureau plutôt citadine à ça, enfin incroyable, pas forcément, parce qu'il y a tout un parcours derrière, physiquement, émotionnellement, c'est quelque chose.
Oui, ça a été. En gros, ça m'a pris 3 ans, là, tout ce parcours. Et ça a été 3 ans hyper intenses, de grosses remises en question aussi, parce que c'est pas évident de changer du tout au tout. Et puis en même temps, une espèce de sensation de retour aux sources, de reconnexion avec la nature. Quand j'ai senti ça, je me suis dit que j'allais vers la bonne direction, quoi. Alors physiquement, c'était chaud aussi, hein, parce que les muscles, j'en ai découvert. Hein. C'est pas les mêmes qu'on fait travailler derrière un bureau ou dans les champs.
Oui, c'est pas les muscles des yeux.
Non, c'est ça. Enfin, ça compte un peu les muscles des yeux quand même, hein, pour observer. Mais...
Ce parcours, il a été aussi jalonné, j'imagine, d'embûches, parce qu'il faut à la fois avoir des notions de gestion, administrative, juridique, j'imagine. Il n'y a pas que l'aspect agricole et paysan.
Oui, c'est ça. Ben, moi, je me suis reformée. Hein. J'ai fait une année de formation en BPROA, donc c'est le brevet professionnel du responsable d'exploitation agricole. On aborde un peu toutes ces questions de gestion, comptabilité, puis aussi élevage, parce que c'est assez complet de monter son entreprise. Hein. Ça reste quand même assez varié. Puis il y a la vente aussi, quoi. Mais bon, ça se fait. Hein. Enfin...
Vous avez du foie de veau ?
Ah non, j'en ai plus. En fait, les abats, tout ça, ça part hyper vite. Et le mieux, c'est peut-être de commander si jamais un jour vous en voulez.
Vous parlez de la difficulté d'être une femme dans ce monde paysan. Est-ce que tu penses que ça peut bouger ? Déjà, quel est l'état des lieux ?
Alors oui, c'est pas facile d'être une femme dans le monde paysan parce que traditionnellement, celui qui travaille dans la ferme, c'est l'homme, quoi. Sauf que les femmes, elles sont dans les fermes depuis la Première Guerre mondiale. Hein. C'est pas nouveau qu'elles travaillent dans les fermes. Elles sont pas très bien reconnues là-dessus. Mais moi, je pense que ça va changer parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'installent, surtout en élevage d'ailleurs, parce qu'elles ont une façon de voir les choses, un lien à l'animal qui est différent. Je reste persuadée que ça va bouger, quoi. En tout cas, moi, je ferai tout pour que ça bouge.
Dans cette démarche de respecter les animaux, d'en prendre soin, d'être vraiment dans une démarche locale, responsable, il y a une association qui est très importante pour toi dans ce marais breton. C'est une association qui milite pour l'abattage à la ferme des animaux. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors en fait, c'est une association qui regroupe les éleveurs de Loire-Atlantique et de Vendée. On est 200 maintenant à peu près sur ces deux départements. Et l'objectif, ça serait de se réapproprier la fin de vie de nos animaux en créant une unité de mise en carcasse pour que les animaux puissent mourir chez eux dignement, de manière respectueuse. En fait, il faut savoir que les animaux, quand on les sépare du troupeau, quand on les met dans un endroit qu'ils ne connaissent pas du tout, on les transporte, on les fait attendre dans des endroits... Tout ça, c'est hyper stressant pour un animal. Et moi, j'ai l'impression de les abandonner, en fait, quand je les envoie à l'abattoir. Je sais qu'ils vont partir à l'abattoir. Enfin, je le sais depuis que je les vois petits, je le sais. Mais cette fin de vie où je ne sais pas ce qui se passe, pour moi, c'est compliqué. Du coup, l'adhésion à cette association, bah, c'était une évidence, c'était l'évidence même. L'objectif, ça serait de... Donc, les animaux sont contentionnés dans la ferme, ils sont étourdis dans la ferme, et après il y a un caisson qui est considéré comme l'extension de l'abattoir, où là les animaux sont mis à mort dans le caisson. Et ensuite il y a une heure pour aller de la ferme à une unité de mise en carcasse, quoi. Et donc ça a été validé, approuvé par les services vétérinaires. Donc on a lancé un financement participatif qui est clos maintenant, et on a un gros travail à faire avec les élus, c'est en cours d'ailleurs. Donc là, la prochaine étape, c'est la création d'une SIC avec plein de partenaires, parce que l'objectif de cet outil, c'est qu'il reste à la maîtrise des éleveurs, que quelqu'un ne vienne pas mettre des sous et nous imposer des choses qu'on n'a pas envie. Donc là, la prochaine étape, donc, c'est la SIC avec des mangeurs, avec des élus, avec des éleveurs. On a le terrain, ce serait un match cool, la mairie nous louerait un terrain pour ça. Donc voilà, il y a encore beaucoup de chemin, mais moi j'y crois.
Tu t'es installée sur la commune de Notre-Dame-de-Mont en Vendée, dans le Marais breton. Ça s'appelle Le Paya. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce lieu et la création de la Vaucetrieuse ?
Alors j'ai entendu parler de cette ferme qui se libérait quand j'étais en stage, justement chez les gens dont je parlais tout à l'heure, là, qui protégeaient la nature en même temps que vivent de leur élevage. Et c'était là où la ferme, elle était exploitée par un paysan qui était aussi marchand de bêtes. Donc il avait, 90 vaches sur 130 hectares à peu près, quoi. Bon, il avait une réputation de pas facile, donc j'osais pas trop y aller. Enfin, je savais qu'elle se libérait, mais c'était pas évident. Puis en plus, quand on est une femme dans le monde agricole, c'est encore plus handicapant. Finalement, il a décidé de transmettre sa ferme via la SAFER. Donc pour moi, c'était vraiment parfait, parce qu'on peut critiquer la SAFER et tout ça, mais quand on n'est pas issu du milieu agricole...
C'est quoi la SAFER ?
Alors la SAFER, c'est une espèce d'institution qui contrôle un peu que les terres agricoles restent aux agriculteurs et que le prix des terres prennent pas des envolées incroyables. Du coup, elle fait en sorte normalement de conserver les fermes dans leur ensemble plutôt que ça parte à l'agrandissement, quoi. Pour quelqu'un qui n'est pas issu du milieu agricole, c'est un bel outil, parce que sinon c'est hyper compliqué l'accès au foncier, l'accès aux fermes, enfin Il faut être au moment où on en parle, il faut être là. Enfin, c'est pas mal de choses un peu officieuses. Les paysans se partagent les terres un peu de façon officieuse entre eux et tout ça. Donc quand t'arrives et que tu connais personne et que t'es pas du tout du milieu, c'est quasiment impossible. Et donc, j'ai rencontré le conseiller de la SAFER, on a fait des rencontres avec ce monsieur, et puis le courant est passé, ça s'est fait, donc ça a pris quand même un an afin de tout caler, ce qu'il vendait, comment il vendait, enfin tout ça, quoi. Donc moi, je me suis installée au 1er janvier 2020 avec 40 mères de race maraîchine et puis sur 110 hectares de ses prairies. Donc j'ai racheté son matériel, ses bâtiments, j'ai pas racheté ses vaches parce que moi, je voulais travailler avec une race de conservation. Je trouvais que c'était cohérent dans un projet de protection de la biodiversité d'y associer une race en voie de disparition. C'est la biodiversité domestique, enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Et puis j'ai choisi la maraîchine aussi parce qu'elle est rustique, elle a des facilités d'élevage qui sont vraiment importantes. Enfin, élever toute seule pour un éleveur, c'est quand même, c'est quand même du bonheur. Et puis c'est une vache en fait qui a toujours vécu en troupeau, donc elle sait qu'elle est une vache, quoi. Elle n'est pas séparée de sa mère quand elle est veau. Elle est hyper intelligente. Enfin, moi, j'ai eu aucun problème à communiquer avec mes vaches. Je les appelle, elles viennent. Enfin, voilà, elles sont intelligentes, quoi. Et puis, elle se soigne très bien aux huiles essentielles et à l'homéopathie, ce qui est parfait pour ce que je voulais faire. Donc là aussi, je me suis formée là-dessus quand même, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi.
Et elles sont super belles aussi.
Oui, en plus de ça, elles ont un atout qui est vraiment chouette, c'est qu'elles sont très belles. Ouais.
L'atout beauté de la maraîchine, est-ce que tu peux nous les décrire ?
La couleur est pas, il n'y a pas une seule couleur, quoi. On va du gris au plutôt marron rouge, en passant par le noir. Il y en a qui sont tout noirs. Elles ont des grandes cornes en lyre et puis des yeux charbonneux, quoi. On dirait qu'elles sont maquillées. C'est les plus belles, hein, forcément, hein, ça, en toute objectivité.
L'animal qu'on élève, comment on fait ensuite pour pas trop s'attacher puisqu'on va le manger, on va vendre sa chair?
Alors on s'y attache, hein. On ne peut pas dire on essaye de ne pas s'y attacher, ça c'est impossible, enfin pour moi c'est impossible en fait, je les vois naître. C'est tout un travail que j'ai encore à faire parce que j'ai déjà bien progressé là-dessus mais j'ai encore une marge de progrès importante. Parce qu'en fait si je veux rester avec des animaux, il faut qu'il y en ait qui partent pour que je puisse rester avec les autres, quoi. Et donc moi je leur parle beaucoup aussi à mes vaches, à mes veaux, et donc je les remercie à chaque fois qu'il y en a qui partent à l'abattoir, je les remercie parce que c'est eux qui me permettent de rester, de faire ce que je fais. Après, il y a des formations qui existent, il y en a une que j'ai hâte de faire pour mieux appréhender la mort. Et puis aussi, il faut savoir que la vache, elle n'a pas du tout le même rapport à la mort que nous, quoi. Nous, on met beaucoup de sentiments, d'affect, mais les animaux, c'est quand même un peu différent, quoi.
On sent un réel attachement, on peut le voir sur les photos, hein, sur ton compte Facebook, La Vaucette Rieuse. Vous pouvez aller découvrir la maraîchine, à quoi elle ressemble vraiment. C'est presque un rapport charnel avec elle, il y a des pauses avec les vaches, enfin, on sent vraiment un réel attachement et même une complicité, elles ont des petits noms.
Ah ben oui, elles ont tout le monde a un prénom, quoi, que ce soit les veaux, les femelles, les vaches, enfin tout le monde a un prénom. Ouais. D'ailleurs, je connais pas trop leur numéro, moi. Je les connais plus par leur prénom, quoi.
Tu peux nous donner des exemples de prénoms ?
Alors oui, donc dans les petits veaux là, qui sont nés à la ferme, il y a eu Rajas, il y a eu Rose. Alors Rose, c'est un peu la mascotte de la ferme, hein. C'est une petite femelle qui a 8 mois et qui est hyper familière. On a Rhapsody, alors j'ai beaucoup aussi de noms un peu influence malgache parce que j'ai voyagé pas mal à Madagascar. Donc il y a Riansou, il y a Ravenal. Sinon en vache, on a Fesca, Duin. Il y en a plein, Cléopâtre, Capucine, Nectarine, Joconde, enfin voilà, il y en a 40 comme ça. Donc
Il y a des années en IN, en A.
Alors il y a surtout des années en première lettre, et après c'est l'inspiration de l'éleveur.
Comment on fait pour les reconnaître ?
En fait je les vois tous les jours, hein. Donc forcément je les reconnais, quoi. Je sais pas, c'est à les regarder, quoi. Elles ont vraiment une personnalité différente chacune. Une façon d'être, elles sont très reconnaissables. C'est des individualités, quoi.
Et le rapport entre toi, éleveuse, et ces vaches, tu te considères comme leur mère, celle qui est là pour les soigner ou pas spécialement, celle qui vit avec eux ?
C'est un peu comme le lion qui côtoie un troupeau de gazelles, en fait. C'est qu'il prend soin, le lion, en fait, il prend soin du troupeau de gazelles pour éviter que les autres lions viennent attaquer le troupeau de gazelles. Et puis de temps en temps, il prélève ce qu'il a besoin pour vivre. Et du coup, je me considère vraiment comme ça, quoi. Après, quand je vais au champ avec elle, je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous. Enfin, je me sens vraiment à l'égal. Je viens pas avec un bâton. je leur braille pas dessus. Enfin, on a des mots qu'elles comprennent et voilà, ça se passe comme ça. Il y en a qui aiment se faire gratouiller, donc je les gratouille en fonction de l'envie et du temps aussi disponible.
L'environnement dans lequel elles évoluent, ces vaches, donc c'est le marais breton. Pas confondre bien sûr avec le marais vendéen, enfin on est en Vendée, mais ça s'appelle le marais breton, c'est très spécifique. On y retrouve quoi comme biodiversité?
Alors une biodiversité super riche, on a vraiment plein d'oiseaux, surtout la barge queue noire, la vosse étrieuse, les chasses, le chevalier gambette. En fait, il y a plein d'oiseaux limicoles qui migrent et qui viennent se reproduire dans le marais breton parce qu'on a des pratiques qui favorisent l'inondation des prairies l'hiver. Et donc, comme c'est des oiseaux qui nichent au sol et puis qui sont limicoles, ils ont besoin de la vase et tout ça, ils trouvent plein de choses pour se nourrir dedans. Donc au printemps, en fait, faut vraiment faire attention où on marche dans les champs parce qu'il y a des nids partout. Et c'est assez déroutant. Moi, je viens du bocage, du coup, c'est assez déroutant de voir des oiseaux qui nichent au sol. Parce que moi, dans mon imaginaire, les oiseaux, c'était toujours dans les arbres, mais pas du tout. Après, il y a aussi une flore très riche. Je suis moins calée sur la flore. Je sais que, par exemple, on trouve des espèces de renoncules protégées. Il y a de la menthe partout. On a des pratiques aussi, on ne peut pas épandre par exemple le fumier parce que ça favoriserait la repousse de plantes qu'on ne cherche pas vraiment à avoir au détriment d'autres qui sont vraiment endémiques. Tout ce qu'elles mangent en fait c'est vraiment le terroir, on ne trouve pas ça ailleurs. Quoi.
Et elle vit du coup avec ses oiseaux et cette flore?
Exactement, ouais. Des fois on voit les oiseaux qui se posent sur leur tête, enfin, moi, ça me fait mourir de rire à chaque fois, mais pour elle, c'est classique quoi, ouais, banal.
Comment tu vois l'avenir pour cette exploitation?
Alors, l'avenir, en fait, là, en ce moment, je suis un peu sous l'eau. Du coup, l'avenir, c'est quelque chose d'assez lointain. Mais mon conjoint est en formation donc, pour faire un BPREA aussi, comme ce que j'ai fait, pour s'installer sur la ferme, mais en développant une activité de camping à la ferme. Comme ça, l'idée serait de ne pas augmenter trop les vaches, pour garder justement ce contact avec les vaches assez privilégié. Et puis, avoir une autre activité qui nous permet de faire venir du monde. Nous, on a beaucoup voyagé et on a envie que les gens viennent chez nous maintenant, parce qu'on pourra un peu moins voyager. Après, j'ai aussi à cœur de participer à l'installation d'autres paysans, parce que je crois vraiment que la conservation des petites fermes, c'est l'avenir. Et pour ça, je suis engagée dans plein d'associations pour œuvrer dans ce sens-là.
On dit que le monde paysan est sous l'eau, que les agriculteurs, les paysans ont du mal à s'en sortir. C'était hyper courageux de se lancer là-dedans. C'est le modèle économique, le fait d'être en bio, en local, avec 40 vaches, c'était ça aussi?
Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis sous l'eau, parce que je viens de m'installer et que du coup, je suis en train de développer la vente directe à fond. Mais en termes de charge de travail, quand ça va être rodé, enfin quand ça va rouler, ça va, c'est carrément tenable. J'ai pas des investissements incroyables, j'ai très peu de matériel. Et puis, j'ai que 40 vaches, quoi.
Tu fais aussi partie du réseau Paysans de Nature?
Alors, le réseau de Paysans de Nature, en fait, c'est un réseau de paysans qui protègent la nature en ayant une activité agricole. Et donc, il y a différents niveaux. Il y a les paysans de nature qui sont naturalistes et donc qui ont carrément les compétences pour gérer leur espace de façon à y accueillir la biodiversité. Et puis, il y a les paysans engagés pour la biodiversité. Donc moi, je fais partie de ces gens-là parce que je ne suis pas naturaliste. J'aime beaucoup la nature et j'ai envie de progresser là-dessus, mais je ne suis pas naturaliste. Et donc, j'en fais partie. C'est pareil, c'est comme la maraîchine, en fait, c'est une évidence. Ça faisait complètement partie de mon projet. Et puis, il y a une charte. J'ai signé une charte pour être paysan de nature qui implique que j'assiste à des formations justement pour progresser sur les compétences naturalistes. J'ai aussi comme mission d'accueillir des stagiaires, plutôt gestion protection de la nature, mais tout autre type de stagiaires, favoriser l'installation et mettre en place des choses pour protéger la biodiversité. Donc là, on a mis en place sur les parcelles avec mon conjoint des bâtards d'eau pour éviter que l'eau s'en aille trop vite au printemps des prairies, pour vraiment conserver l'eau sur les prairies. Enfin, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, enfin, c'est un choix qu'on a fait, mais il faut savoir que quand on met les vaches dehors au printemps, il y a toute une partie qui est non pâturable, donc nous ça va parce qu'on a très peu de vaches sur toutes les prairies, donc c'est complètement gérable. Mais nous ça nous va très bien, et puis en plus l'avantage de ça c'est que quand l'eau s'en va, ça fait de l'herbe verte plus longtemps, donc les vaches elles sont contentes finalement.
Parce que les vaches elles mangent que de l'herbe?
Ah oui, ouais, uniquement de l'herbe et puis du foin l'hiver, ouais.
Portrait de Lucie Marito dans Les Écolonautes, éleveuse de vaches maraîchine dans le Marais breton. Retrouve-la au Paya, sur la commune de Notre-Dame-de-Mont, dans sa ferme La Vossetrieuse. Cette rencontre s'est faite au Solilab à Nantes à l'occasion du marché paysan du mardi. Elle y présente tous les premiers mardis du mois le fruit de son travail. Les Écolonautes, épisode 4, à retrouver sur le www.prune.net.
Et des vaches pour les fermes aussi. Elles sont mixtes, elles font les œufs comme toutes les races.